Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Sophie, est-ce qu'on peut mettre du bleu avec du noir? Pourquoi les mannequins, elles sont si maigres?
Et Sophie, pourquoi les mannequins font toute la tête?
Non mais qui ça intéresse encore le luxe? Quelqu'un m'a dit que c'était la fin du slim. Est-ce qu'on peut porter encore une jupe après 60 ans? Comment c'est possible qu'un t-shirt il coûte 350 euros? Non mais qui a inventé un truc aussi aberrant que le Bermuda? Vous écoutez Appel Sophie Fontanelle, le podcast mode de l'Obs, dans lequel je tente de répondre à certaines de vos questions. Première question, bien s'habiller coûte-t-il forcément cher? Non, non et non. Mais maintenant, il va falloir développer. J'ai été élevée dans un milieu où nous n'avions pas énormément d'argent. On n'était pas pauvres, mais en tout cas, l'argent qu'on pouvait consacrer aux vêtements était considéré comme un luxe, quoi qu'il en soit. Alors, on achetait des vêtements aux puces. Et on était très bien habillés, incroyablement bien habillés. Pourtant, ce n'étaient pas des vêtements qu'on voyait dans les magazines. Les choses qu'on achetait n'étaient même pas à la mode, en fait. Je donne un exemple. Quand j'avais 15 ans, au milieu des années 70, bien, c'était la mode d'avoir des sabots, d'avoir des petites vestes sans manches, un peu en moumoute, en peau de chèvre. Il y avait des pantalons pas de def. On trouvait pas ça aux puces, en fait. Aux puces, on trouvait des blouses de 1930, des pantalons de marin, de jardinier, des costumes d'hommes, beaucoup, beaucoup de costumes d'hommes, puisque dans les années 70, plus personne ne voulait de costumes momentanément, même s'il y en avait encore. Donc, on s'habillait pour pas cher. Simplement, il fallait accepter d'être différent des autres. Il y a eu un moment très important qui a été le film Annie Hall. Quand on a vu Diane Keaton dans Annie Hall, on a vu une femme habillée comme on rêvait de l'être. Je dis « on », espèce de « on » général, parce que ça correspondait à beaucoup, 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 beaucoup de gens. Des personnes qui se sont dit « ah, mais elle a vraiment un style ». Pendant longtemps, elle était dans les rênes du style. Et puis on a appris, des années plus tard, que sur le tournage de ce film, elle n'avait pas un sou. Il faisait ce film avec 3 francs 6 sous. Alors, elle était allée aux puces, elle aussi. Et elle était allée s'acheter ce qu'elle trouvait aux puces, c'est-à-dire des cravates à foison. Encore aujourd'hui, c'est bourré de cravates aux puces. Simplement, on ne sait plus quoi en faire. Elle était allée s'acheter un petit gilet de costume 3 pièces. Plus tard, Vanessa Paradis, elle remettrait le même vêtement. Ce serait de nouveau à la mode. Et elle avait acheté des gros pantalons de velours. Voilà, elle s'était fait un look pour 3 francs 6 sous. C'est la preuve quand même que déjà, on peut entrer dans l'histoire du vêtement pour pas cher. Autre question, est-ce que c'est pas plus facile de s'habiller pas cher quand on est bien foutu? Beaucoup de choses sont plus faciles quand on est bien foutu, mais j'arrive pas à adhérer complètement à cette théorie. Je sais que là c'est une question, mais ça ressemble à une théorie quand même. Je crois qu'en fait, pour s'habiller pas cher, il faut accepter de jouer avec la taille des vêtements. Parce que on trouve pas forcément sa taille. Donc ça demande plus que d'être bien fichu, bien foutu, mince, grande ou grand, hein, là où je parle, c'est mixte. Ça demande d'être à l'aise avec son corps, disons dans une certaine mesure, parce que personne n'est si à l'aise que ça avec son corps. Ça demande quand on essaie un jean, parce qu'on trouve que le délavage est beau, parce que si vous êtes allé dans les boutiques vintage, vous avez vu que souvent les délavages sont ignobles, hein, et ils arrivent là dans la boutique. Ben, on en trouve un, il est très très beau. En plus, c'est un Levi's, on voit qu'il a le petit revers derrière dans la couture et bordé de rouge, on voit que c'est un jean ancien, on voit qu'il est très très beau, mais alors quand il est trop petit, c'est foutu, hein. Mais quand il est trop grand, mettons, il est très très grand. Parce qu'il appartenait à Raymond DeVos.
Alors là, j'ai rompu le silence, j'ai dit, mesdames et messieurs, mais je n'ai rien dit. Qu'est-ce que j'avais dit là ?
Eh ben, il faut pouvoir l'essayer quand même. Et il faut pouvoir dire, je vais le serrer avec une ceinture. Il faut pouvoir faire ça, même si on considère qu'on a un gros cul. Parce que, mettons, il est grand, alors qu'on a un gros cul. Parce que Raymond DeVos, il avait vraiment un très, très gros cul. Donc, en fait, il faut une audace, il faut quelque chose qui se passe, une inventivité, une confiance en soi, qui est pas évidente, je reconnais, et qui fait toute la différence. Quand je dis ça fait toute la différence, c'est que ça fait qu'on prend le vêtement et qu'on va savoir, on dit l'emporter. C'est pas juste l'emporter de la boutique, c'est l'emporter sur soi. Et je sais que ce rapport au vêtement, il vient pas sur vous par miracle. Pourquoi il vient ? Parce que vous adorez ça. Il vient parce que vous avez regardé tellement de fois des films, des images, des gens habillés dans des tableaux au musée. Vous avez tellement regardé ça qu'en fait, ça fait partie du sens de votre vie de chercher quoi vous mettre sur le dos. Et donc, vous trouvez, vous finissez par trouver. Nouvelle question. Dire qu'on peut s'habiller bien pour pas cher, est-ce que c'est pas le comble du snobisme ? Ben, dans ces cas-là, je suis très, 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 très snob. J'essaie de répondre honnêtement. Je vais me permettre de répondre dans mon cas. Hein, voilà. Bah dans mon cas, ce n'est pas du snobisme, c'est du courage, en fait. C'est de la bravoure. C'est vraiment de se dire, j'ai pas besoin de ce truc qui a coûté pas très cher certainement à fabriquer, mais qu'on me vend à 2000 euros. Parce que même à 2000 euros, si ça se trouve, ça a coûté 30 euros à faire, faut le savoir. Hein. Donc, je suis en train de dire là ma foi profonde en cette histoire de vêtements pas chers. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des gens snobs qui s'habillent pour pas cher et qui le disent. En fait, c'est pas les plus nombreux. Les pires des snobs, c'est pas ceux qui disent qu'ils sont habillés pour pas cher, même s'ils existent. Les pires des snobs, c'est ceux qui disent qu'ils l'ont depuis longtemps. Le plus grand des snobismes, c'était à mon père. Et je l'ai fait refaire. D'ailleurs, ils disent « je l'ai fait reprendre ». Et ça, c'est très snob. Je m'amuse là à essayer de défendre que c'est pas snob, mais il est évident que je suis pas née de la dernière pluie. Je sais très bien que il peut y avoir un snobisme bobo à dire que on a pas besoin de grand chose et que donc on va à la friperie et que comme on a du goût, et on va pas revenir là-dessus, mais Pierre Bourdieu a largement expliqué comment est-ce que ce goût était une donnée sociale qui était déjà une partie de votre distinction et de la chance que vous aviez dans la vie. Ben, il est évident que tout ça, je sais bien que ça recèle un certain snobisme de bobo, mais pas toujours. Et donc, en fait, réduire le fait de trouver son bonheur, que ce soit au Monoprix, ou que ce soit dans une friperie, ou que ce soit sur un site, de revente, ou bien sur un marché, sur les marchés aussi, moi, je trouve beaucoup de choses, dans les tout à vrac, là, je sais pas quoi. Pour moi, c'est snob dans un cas, c'est si on est devant quelqu'un qui est habillé, qu'on a pour très cher, et qu'on commence à frimer en disant, ben moi, ça m'a rien coûté. Voilà. Mais sinon, en soi, je trouve pas ça si snob. Et c'est important de le dire parce que c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. C'est un truc de riche de dire, je m'habille d'un rien. Et c'est vrai. C'est vrai que les gens qui disent, moi, j'en peux plus, j'ai trop de vêtements, les gens qui veulent une frugalité vestimentaire, souvent, c'est parce qu'ils en ont des vêtements. Sinon, ils voudraient en avoir déjà en premier, en acquérir avant de s'en lasser. Question lumineuse. Est-ce qu'on ne pollue pas plus la planète quand on s'habille pas cher que quand on s'habille cher ? Bah, évidemment, ça dépend de ce qu'on appelle pas cher. Donc, réponse ambiguë, c'est que si les vêtements pas chers, c'est ceux qui sont produits en quantité astronomique et qui sont vendus pas cher, parce qu'ils sont produits à grande échelle et qui se retrouvent sur des plages en Afrique à fabriquer des murs de merde et qu'ils constituent nos déchets, en effet, on pollue énormément la planète. C'est sûr. Si ces vêtements sont des vêtements de qualité qui ont été invendus et qui se sont retrouvés finalement laissés pour compte, on la pollue moins. Mais vous savez quoi ? J'en suis même pas sûre. Parce qu'il y a des gens qui expliquent que le trajet fait par ces vêtements vintage... Et encore une fois, on trouve des merveilles là-dedans, hein. Des vestes magnifiques en cachemire, des pantalons dans des velours qu'on ne fait même plus tellement ça coûte cher. Mais ces vêtements, Ils ont été produits en Europe, souvent. Ils sont partis dans les pays de l'Est. Des pays de l'Est, même là-bas, dans le bloc de l'Est, les gens n'en voulaient pas. Ils sont retournés en Afrique. En Afrique, il y a des gens qui se sont servis, qui en ont pris. Des gens n'en voulaient pas non plus. Il y en a qui ont été jetés, qui ont pollué. Ensuite, il y en a qui sont revenus en Europe. Il y a un endroit à Marseille où arrivent des cargos avec des espèces d'énormes ballots de vêtements qui sont complètement compressés comme ça, qui vont irriguer tout le marché du vintage en Europe. Alors oui, ça pollue. On arrive à un point très intéressant qui est que, en fait, si on voulait s'habiller pour pas cher et pas polluer, il faudrait s'habiller moins pour pas cher. C'est que la tentation de s'acheter beaucoup de vêtements pas chers, je ne parle pas des grosses enseignes là, je parle vraiment du vintage, quand ça coûte 5 euros dans une friperie, ben ça, en fait, même là, il faudrait ne pas trop en acheter. Et il faudrait donc arriver, ce qui serait le comble de l'élégance, et on en revient à l'idée du snobisme, peut-être le comble du snobisme, à avoir trois fois rien, mais sublime. Vous écoutiez Appel Sophie Fontanelle, un podcast de l'Obs. À bientôt pour répondre à d'autres questions que vous pouvez m'envoyer à @SophieFontanelle sur Instagram.
Ce podcast a été réalisé par Julien Bousset, la musique est signée Harry George Lightfoot et la direction éditoriale était de Mathieu Aron.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.